EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour et bienvenue dans la table avec Annabelle. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes très heureuses de pouvoir accueillir à nouveau notre ami Emmanuel.
Oui,
bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Toujours un grand plaisir de te recevoir.
Je crierais presque, mais je me retiens.
Ah, tu peux crier.
Tu peux crier.
Non, retiens-toi. Ceux qui avaient des écouteurs, non. Non, non, c'est bon. Emmanuel va bien se tenir.
Je vais bien tenir, c'est promis. C'est promis. Non, mais et je suis bénie d'être là.
Ah, ben nous. Vraiment, on est très contente. Et écoute, je pensais à ce thème d'émission. Il y a eu Steve qui est venu cette semaine et pour parler du témoignage, comment témoigner, etc. Et je pensais à toi parce que je me suis dit, mais en fait, elle, c'est sa vie, quoi. Elle témoigne dans les histoires, les anecdotes que tu peux raconter. Mmh. Mais même quand je te vois, on va au resto ensemble ou je sais pas quoi, tu as vraiment le témoignage facile. Et moi, je trouve que c'est admirable. Et tu vois, moi, c'est pas quelque chose que je trouve facile dans la vie à faire.
Non plus.
Mais quand je vois des gens comme toi, ça a l'air tellement naturel. Alors écoute, aide-nous à notre secours.
Comment
faire? Comment c'est devenu un style de vie pour toi? Parce que je sais même pas si aujourd'hui t'en as même conscience, tu vois, de cette facilité que t'as à pouvoir partager ta foi et puis comment tu le fais bien aussi. Donc On va apprendre de
mais
quoi.
Mais on se met à tes pieds.
Pour de vrai, est-ce que tu te rends compte que
non,
t'es
déjà,
ce genre de personne?
Déjà, je te remercie de me partager ça parce que ben, on a échangé par message. Tu m'as dit que c'était inspirant cette manière que j'ai peut-être de partager l'évangile, de partager ma foi. Et en fait, je m'en rends pas forcément compte.
Et
donc
ça,
déjà cette émission est déjà réussie parce qu'en fait, elle m'ouvre aussi les yeux sur ce que Dieu fait avec ma vie. Et merci pour ça.
Ah bah écoute, merci. Je suis très heureuse.
Ouais. Vraiment.
On m'a jamais écrit ça. Pourquoi on est allé au resto, hein, ça?
Bah, en tout cas.
Parce que moi aussi, je vais apprendre parce que c'est pas naturel pour moi.
Mais est-ce que t'as toujours été dans tes souvenirs, t'es plus jeune, est-ce que, t'avais cette facilité à témoigner, partager ta foi?
Je pense que c'est lié à une partie de ma personnalité que Dieu a beaucoup travaillé et dont on a déjà parlé ensemble, c'est l'authenticité.
Mm-hmm.
Je pense que c'est lié à ça, le fait que Dieu a travaillé mon identité et donc mon identité c'est devenu est tellement j'essaie tellement d'être vraie et ce qui est plus vrai en moi c'est Jésus.
Mm-hmm.
C'est je peux pas m'en empêcher et donc forcément c'est ce que les gens voient en premier. Vu que je pense que je mets tout sur la table.
Mm-hmm.
Et je pense que c'est peut-être ce que t'as pu voir alors. Mm-hmm. Que finalement, mais partout où je vais.
C'est ça,
j'essaie
c'est pas caché.
Non, exactement. Ça. Exactement. Donc partout où je vais, j'essaie d'être vraiment authentique. Et je pense que c'est une clé. Pour pouvoir partager l'évangile, c'est être capable d'être vrai, vulnérable, authentique, parler de ce qu'on vit vraiment. Et je pense que le témoignage, c'est très fort. Et mais le truc, c'est que quand on a un peu peur de témoigner, parce que on a peur de ce que les gens vont penser, etc., ben, c'est ce qui va nous fermer. Alors que moi, je pense que j'ai pas peur de ça parce que finalement, je pense que c'est l'authenticité. C'est le fait de pouvoir s'ouvrir vraiment et tout le temps.
Ok, parce que toi tu vas raconter un témoignage de vie, hein, vraiment,
oui,
un témoignage
c'est ça,
de vie
c'est ça.
Sur quelque chose qui s'est passé. Je sais pas, vous avez une opportunité. Ah bah c'est Dieu qui nous a ouvert
exactement.
Une porte. Alors que tu pourrais choisir dans ton langage de dire, oh, on a une belle opportunité.
Oui.
Ça passe bien, quoi. Je trouve. Mais tiens, toi tu y vas
exactement.
En disant je sais pas du coup, est-ce que tu te dis, est-ce que tu as ce genre de système de pensée? Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que ça va être accueilli? Est-ce qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis?
Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des réticences, mais à chaque fois, Dieu m'a confondue. À chaque fois que j'étais peut-être un peu plus moins authentique et sur la réserve, Dieu m'a confondue. Je vais donner un témoignage très récent. J'ai une de mes patientes que je soignais depuis un bon moment.
Oui, parce que t'es kiné.
Oui, c'est ça. Ouais, je suis kiné. Et j'ai soigné depuis un bon moment à la clinique. Et j'avais cette, je pensais que elle, je ne pouvais pas ou j'étais pas à l'aise de parler de Jésus. Donc, et c'était spécial parce qu'en plus, elle était très, j'avais l'impression, et c'était mon impression, qu'elle était fermée. Fermée à l'évangile et même fermée à tout. Donc en fait, je parlais quasiment pas avec elle. Je la connaissais pas du tout, je savais même pas vraiment ce qu'elle vivait, je faisais son traitement et puis c'était fini. Et en fait, Dieu m'a confondue parce que je crois que j'avais, en fait, moi-même, j'ai présumé, exactement.
Ouais.
Et souvent, on a ça. On présume de, ah, mais cette personne ne veut pas. cette personne ne veut pas entendre parler de l'évangile et souvent on se trompe en fait. Mm-hmm. Parce que tout le monde veut entendre parler de l'évangile et tout le monde a besoin de Jésus. Jusqu'à un jour où c'était un samedi, j'avais même pas envie de venir travailler ce jour-là, franchement. Samedi en plus, t'as pas trop envie d'y aller. Puis j'y vais quand même et je sens que je dois y aller, j'y vais. Et ce jour-là, c'est comme si tout d'un coup dans mon cœur, je me dis mais si ça se trouve, c'est toi qui te trompes sur elle. Si ça se trouve, c'est un a priori. Qu'est-ce que tu en sais? T'as décidé ça. Et il y a tellement de choses dans notre vie que, en fait, qui sont issues de notre imaginaire, de notre imagination, mais qui sont absolument pas avérées. Et je me suis dit, mais je vais juste enlever l'étiquette que je lui ai mise parce que j'avais mis une étiquette. Et je vais être ouverte. Et ce jour-là, j'ai posé une simple question. D'une simple question, elle m'a raconté toute sa vie. Elle m'a partagé que sa maman avait vécu dans la prostitution et qu'elle était blessée, que c'est une enfant qui a été blessée. Et en fait, elle était ouverte à l'évangile. Je l'ai invitée à l'église, elle m'a dit « je vais venir ». Elle m'a dit « en fait, moi, je crois en Dieu, mais je sais pas où il est ». Enfin, elle a commencé à me poser plein de questions, alors que je la soignais depuis plusieurs mois et qu'elle m'avait jamais parlé. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que, oui, des fois, j'ai des a priori. Oui, des fois, j'hésite. Mais à chaque fois, Dieu me confond. Dieu me dit « mais en fait, tout le monde a besoin ».
Et tu te souviens d'une fois où t'es peut-être plus jeune, comment où tu t'es dit ou non, vous avez fait beaucoup d'évangélisation de rue aussi.
De rue, oui.
Bah, voilà, bah ça ça guérit. Hein.
Oui, c'est clair, parce que t'as tout dans la rue. T'as des gens qui vont te dire laissez-moi tranquille. T'as des gens, mais il y a vraiment des témoignages. J'en ai tellement des témoignages où je me suis dit mais Seigneur.
Parce que t'as fait ça quand t'étais plus jeune.
Oui.
Mais après vous l'avez fait longtemps.
On l'a fait longtemps parce qu'en fait nous c'est notre programme du samedi.
Ah ouais,
les samedis, on sortait dans les rues et puis on évangélisait.
Mais tu as des témoignages de rue, mais moi, ça a été mon traumatisme parce que au début de ma foi chrétienne, ok, vous êtes bien attaché, on allait témoigner au salon funéraire.
Ah ouais, c'est...
On n'était pas.
Ah d'accord.
Mais
ah
c'était votre choix. Mais non, c'était le groupe de jeunesse.
Ah,
c'était dans une église quelque part sur la planète.
Mais décidé par quelqu'un.
Oui. Okay. Mais on n'était pas invité. On connaissait pas la personne. Donc on s'insérait comme.
C'est
un mauvais truc. Et moi j'étais traumatisée parce que je me suis déjà faite mettre à la porte du salon funéraire parce que vous êtes qui. Ben imagine-toi.
Mais est-ce que vous en avez eu des personnes qui ont été intéressées? Parce que
ben, pas du tout.
Salon.
Mais imagine-toi quand maman est décédée, si j'avais eu des gens qui étaient rentrés dans notre peine puis parler de Jésus. Là, avant de fermer le cercueil, on a levé la voix pour prier.
Oh my God.
Les gens devaient se dire, mais c'est qui? C'est qui? Donc, tu vois, je pense que c'est un traumatisme. Donc,
c'est bon, voilà,
excusez-moi, tu as éveillé quelque chose en moi.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis.
Ça aurait pu fonctionner. Il y a tellement de gens qui se posent des questions sur la vie après la mort que ça aurait pu, tu sais, à ce moment-là, il pourrait y avoir des gens intéressés de se poser la question.
Mais là, ils rentrent vraiment dans la pièce.
Comme la famille.
Je pense que c'est une question d'être au bon endroit au bon moment. Je pense parce que je suis certaine que dans des enterrements, il y a des gens. Nous, ça nous est déjà arrivé, mais il y a un contexte.
Mais on avait là des imposteurs.
Exactement. Donc, c'est le contexte.
Il y a des gens qui s'invitent au mariage.
Je ressens le traumatisme.
Ouais, grave.
C'est pour ça peut-être que je suis.
Non, je comprends.
J'ai dit.
Mais je pense que c'était pas le contexte. Et puis, je pense que on doit être sensible à quel moment, à quel endroit, comment, toutes ces choses-là sont.
Je m'étais couchée le soir, mais j'avais dit au Seigneur, si tu doutes de mon amour, je suis prête à faire tout pour toi.
Oh, my. Wow.
C'est l'évangélisation de
courage.
Mais je comprends ça. Et ça apporte quelque chose, en fait, à cette conversation. Je pense que ça apporte le fait que on doit être au bon endroit, au bon moment, sensible à ce que l'esprit veut faire à tel moment. Il y a des moments où je suis certaine, nous on l'a déjà vécu dans des enterrements, où l'IFA par exemple était invité pour partager.
Mais lui il était invité.
Oui, c'est ça la différence. Je pense que c'est la différence.
C'est un petit détail, c'est la grosse différence.
C'est que les gens voulaient qu'il soit là, par exemple. Bref. Et donc oui, donc l'évangélisation de rue, qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui, c'est les témoignages qu'on en a, mais c'est vrai que ça demande de l'audace, l'évangélisation de rue. Et en même temps, faut être prêt aussi parce qu'il y a des gens qui veulent rien savoir de toi, qui vont pas vouloir t'écouter. Et c'est pas grave, ton rôle n'est pas de convaincre. Ouais. Ton rôle, c'est de partager.
Mais là, demain, on te dit, on va faire l'évangélisation dans la rue. Toi, t'es 100%.
Absolument.
Pas peur du rejet.
Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui, ouais, non, je suis pas à l'aise. Comment,
les chrétiens qui sont pas à l'aise à parler de Jésus?
Bah, aller faire une évangélisation dans la rue.
Dans la rue.
Mais à, je leur dis, moi, être intrusif. En fait, c'est ça. Moi, je veux pas me mettre dans la peau de quelqu'un. Je le suis. Tu sais, le côté de, tu vas dans la rue, t'as l'impression que tu rentres dans le, tu sais, la personne, elle va d'un point A à point B, tu rentres dans son truc, tu peux, et puis, du coup, d'avoir cette peur de te faire balayer d'un revers de main, puis d'être un peu, passé pour quelqu'un de bizarre aussi, des fois, peut-être.
Mais c'est, je pense, c'est un sentiment normal. Il faut pas, faut se donner de la grâce. C'est pas, on n'est pas mauvais, on n'est pas un mauvais chrétien parce qu'on ressent ça de prime abord. Mais je pense qu'il, c'est sûr qu'il faut aller au-delà de ça. Ce que je donnerais comme, en fait, je donnerais une vraie clé, un témoignage que je pense que les gens devraient toujours penser à ce témoignage s'ils hésitent. On était un jour dans la rue et c'est gênant la rue, il y a des trucs bizarres, il y a des gens qui te répondent pas. Puis là il y a un gars en vélo et quelqu'un en vélo c'est spécial parce que tu vas pas lui courir après, il est en vélo, il a pas la même allure que toi, t'es à pied.
C'est clair, moi déjà je lui dis il est en vélo.
Déjà, lui est tombé. En fait il est en vélo et nos regards se croisent. Et je sens que je vais lui parler Jésus, mais il est à vélo, donc je me dis mais comment je vais lui parler Jésus, parce que c'est voilà. Puis en fait donc lui donc il descend une rue qui est en pente, il descend puis moi je suis là et donc nos regards se croisent puis il continue en fait son chemin. Et je me dis Seigneur donne-moi l'opportunité de lui parler parce que je veux pas lui courir après, donne-moi l'opportunité de lui parler. Puis on continue notre tournée d'évangélisation sur cette place, puis on remonte un peu plus haut et là bizarrement je pense qu'il avait fait le tour de la place puis il est remonté plus haut. Et là il était à côté de son vélo, il était à l'arrêt. Comme si, je pense qu'il a voulu, en fait, revenir. Et donc là, je commence à lui parler de Jésus. Et je lui dis, écoute, t'as vu, nos regards se sont croisés. Je pense que t'as un rendez-vous avec Jésus, en fait.
Ah ouais.
Puis il commence à pleurer.
Ah ouais, direct.
Mais oui, parce que je me dis, pourquoi le mec, il a fait le tour? Attends, s'il te plaît. Et là, il commence à pleurer. Et je précise que c'est un Africain. C'est pas dans notre culture facile pour un homme de se mettre à pleurer en pleine rue. Tu vois. C'était un jeune, je dirais, qui devait avoir 25 ans. Et là, il me dit, en fait, moi, là, aujourd'hui, j'allais me suicider. C'était mon projet de vie aujourd'hui, d'aller me suicider. Et je vais lui dire son prénom, il s'appelle Roméo. Puis il me dit, voilà, je m'appelle Roméo, en fait, je suis un ancien footballeur professionnel. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon épouse, j'ai plus la garde des enfants, j'ai perdu ma carrière, j'ai été blessée. J'ai plus rien, en fait. Il n'y a rien qui me raccroche à cette vie. Je vais juste aller mourir. Et en fait, quand nos regards se croisent, il se passe un truc, tu vois. Et en fait, Dieu se dit, mais on est au bon endroit, au bon moment, tu vois. Et là, je parle de Jésus, ben après, il s'est converti, il est venu à l'église, il est chrétien. Aujourd'hui, au jour où je vous parle, il est chrétien, il est vivant. Donc, quand les gens hésitent, je me dis, mais c'est une question des fois de vie ou de mort.
Oui, t'as raison.
Tu vois. Donc, toi, au pire, c'est ton inconfort, mais à quelqu'un qui peut-être aujourd'hui avait décidé que la vie s'arrête, tu vois. Donc, oui, l'inconfort dans la balance. Moi, c'est pour ça que j'essaie d'être violent avec moi-même, de me dire, mais pour une personne, pour un gars comme Roméo, ça valait la peine.
Bah, c'est sûr que quand tu le mets comme ça, ça remet tout en perspective. Comme tu disais, c'est ce genre de témoignage, pensons-y. Roméo, tu vois.
Ouais.
Il y a peut-être un Roméo.
Mais c'est clair. Mais grave. Il est quelque part, clairement. Si t'es dans cette rue à ce moment-là, c'est pas un hasard. Si Dieu t'a amené à ce moment-là, dans ce restaurant, dans ce salon de coiffure, il y a quelqu'un.
Et tu vois, l'évangélisation, là, de rue, tu dis, là, bon, Roméo, vous avez eu, eye contact, donc direct. Que toi t'es allé, mais quand c'est dans le cadre, je sais pas moi, une coiffeuse au restaurant, c'est quoi ton approche c'est quoi le pont? Parce que c'est là aussi qu'il y a le fois où on sait pas trop par où commencer, et puis tu sais tellement par où commencer que tu commences pas. Donc toi, c'est quoi tes approches?
Je dirais que c'est des petites choses, c'est des petites choses qu'on fait, et elles vont toujours te poser des questions. Les gens vont te poser des questions sur ta vie, sur qui tu es. En fait, qui tu es réellement, c'est Jésus. Tu trouveras toujours le moyen de rendre gloire à Dieu, parce que franchement, qu'est-ce qu'on a fait sur cette terre si ce n'était Jésus? Donc, chaque fois qu'on pose une simple question, je sais pas moi, vous avez 5 enfants, on dirait pas, je dis, ah ouais, ça c'est pas moi, c'est grâce à Dieu.
Okay.
Là, je peux pas m'enorgueillir de ça, c'est pas moi, tu vois. Et donc, c'est comme si, en fait, il y a toujours une perche que quelqu'un va te tendre, et puis toi, tu vas la saisir. Et moi, j'ai saisi toutes là.
Mais aussi, c'est que t'es intentionnel. Tu les cherches, les perches. Peut-être que nous, t'as combien d'enfants? J'aurais dit 2, toi.
Est-ce que c'est un réflexe de dire, justement, quand par exemple, tu vas chez la coiffeuse, tu dis, OK, Seigneur, allez, montre-moi, oriente-moi, permets-moi de parler. Est-ce que, tu sais, c'est comme,
ou c'est vraiment? Parfois, mais parfois, non.
OK. Ah.
Parfois, oui, parce que je sais pas, ce jour-là, je sens que Dieu va faire quelque chose de particulier, qu'il y a quelqu'un particulièrement pour lequel je suis venue dans cet endroit. Et puis des fois, non, c'est juste le quotidien, on va parler de tout et de rien, et puis ça va être facile. Ou j'ai un patient récemment, mais lui il est chrétien, mais c'était vraiment beau de voir comment c'est des petites choses. Donc il arrive dans là où je travaille, et moi je mets toujours de la louange. Mais c'est bête ça, mais en fait c'est important en fait. Donc il arrive et lui il venait de se convertir il y a pas très longtemps, je pense que ça fait un an à peu près. Puis il rentre et il dit oh, je connais cette chanson. Mm. Et puis il dit ça fait un an que Jésus a changé ma vie. Mm. Et là on a commencé à parler de tout et de rien et je vais vous parler de lui parce que en fait lui il a un bon exemple de ce que chacun peut faire. En fait, Philippe, comment il s'est converti à un an, c'est qu'il était dans son camion, il est conducteur de truck de poids lourd et il était aux États-Unis. Et lui il croyait pas en Dieu du tout là, il avait aucune relation avec Dieu. Et là, dans son truck, il avait vécu des moments difficiles, peut-être même des moments de dépression, peu importe, il vivait des choses difficiles. Et là, il y a un papier qui se pousse contre son pare-brise. Puis là, c'est un papier où il écrit genre « Jésus t'aime » en français. Mmh. Et là, il est aux États-Unis, dans le Kentucky, là. On parle pas français là-bas. Et peut-être que quelqu'un, peut-être qu'il y a une fille, une femme, quelqu'un, un homme qui a pris des petits papiers. Et ça semble tout bête, qui a osé écrire Jésus t'aime dessus, qui les a balancés quelque part. Et lui, ça a sauvé sa vie. Donc je pense que c'est des petites choses que l'on peut faire. C'est pas des grands, y a pas besoin de faire des grandes choses, mais il faut commencer par juste peut-être que quelqu'un nous écoute là, et il va se dire, ok, je vais prendre des post-it où j'en sais trop rien, puis je vais écrire Jésus t'aime, et puis je vais les coller n'importe où, ça semble simple, des petites cartes dans un restaurant, sur un comptoir. Je veux dire, qu'est-ce que ça nous coûte de faire ça? Mm-hmm. À part du temps. Ça ne nous coûte pas grand-chose, mais lui, ça a sauvé sa vie.
Mais aussi ces petites voix intérieures-là, ça fait tellement... Tu me rappelles, quand j'ai pris mon cours de communication de la parole, tu sais, j'étais étudiante, on devait tous faire, ça fait quand même plusieurs années, 10 minutes de prédication. Mm. Et il y a une jeune fille qui était là, qui a prêché, je ne peux même pas dire son nom. Ouais. Mais tu vois, son message m'a impactée parce qu'elle disait qu'elle parlait justement d'évangéliser, de donner, tu sais, à oser parler de Jésus. Puis elle disait qu'elle allait à son bureau, tu sais, c'était des sectionnels, des paravents, elle n'avait pas de bureau fermé comme tel, mais il y avait plusieurs personnes. Et elle allait... Elle parlait avec quelqu'un, puis elle revenait toujours la même personne, mais elle trouvait qu'elle allait pas bien, mais elle osait pas y parler de Jésus, tu vois. Puis quand elle est partie, le soir, il était encore là très tard, puis elle est partie, puis elle dit, oh, j'y ai pas partagé ce que j'avais sur mon cœur. Puis le lendemain, quand elle est revenue, cet homme-là, il s'est jamais présenté. Mmh. Et ils ont su qu'il s'était enlevé la vie.
Oh my God.
Tu vois, et ça, de son message, là, elle, c'était une pratique de, mais c'était une histoire qu'elle avait vécue. Et je me disais, cette histoire-là, des fois, quand on n'ose pas trop, tu sais, on faisait des blagues, mais des fois, quand on sait, des fois, cette personne-là ose parler parce qu'on sait, comme tu disais pour Roméo, on sait pas ce qu'elle vit, puis c'est peut-être l'opportunité, l'instant du moment. Et la dernière. Mm-hmm. Et je pouvais visualiser cette pauvre jeune fille-là quand elle est arrivée le matin, puis elle dit que ça avait impacté sa vie et que c'est pour ça qu'elle voulait parler de Jésus aujourd'hui. D'être sensible, le Saint-Esprit, c'est ça aussi, d'être sensible à sa voix.
Exact.
Mais peut-être la sensibilité de quelqu'un aujourd'hui qui a besoin d'entendre parler de toi.
Exactement.
Et c'est vrai que ça sauve la vie, ça peut sauver la vie d'une personne.
Mais à notre manière. Je pense qu'il faut
pas. À notre manière.
Plein de pression, on se dira.
Faut absolument. Et une condamnation, tu vois, aussi.
Pour pouvoir partager. Il y a de la condamnation là-dedans, donc c'est vrai, t'as raison.
C'est pas une condamnation, c'est de l'inspiration.
Exactement. C'est pour ça qu'on revient à ce que je disais au tout départ, l'authenticité. Mm-hmm. Je pense qu'il faut vraiment être vrai, naturel. Les gens le sentent. Je vous assure, les gens sentent les gens fake. Mm. Le faux, les gens le sentent toujours, tu vois. Et ils ont pas confiance. Ils vont se dire, oh, celle-là, elle veut montrer qu'elle est super spirituelle.
Et aussi, moi, une façon que j'ai de témoigner de Jésus, c'est souvent lorsqu'on parle de nos familles. Puis je vais, tu sais, quand tout, tu sais, des fois, parce que t'es chrétienne ou pasteur, ils vont dire, oh, c'est parfait. Mais des fois, être authentique, vulnérable. De dire, mais moi, on a traversé ça, notre famille. Et quand t'ouvres là-dessus, au gym où je vais, je dis, il y a au moins 5 femmes de toutes diverses arrière-plans que je leur ai dit, ah oui, je te comprends parce que moi, j'ai traversé ça. Et comment, mais moi, c'est la foi. C'est Jésus qui a aidé. Tu vois, mais en voulant avoir l'air parfaite, tu dis, il s'associe pas à toi, mais juste d'être vulnérable, dire, c'était vraiment dur, mais c'est grâce à Dieu que m'en suis sortie. Et les gens, ils sont ouverts aussi quand on partage des défis, des épreuves qu'on a traversées, puis on dit, mais comment tu t'en es sortie? Parce que j'avais Dieu, parce que sinon je m'en serais jamais sortie, tu vois.
Exactement.
C'est une porte d'être vrai aussi.
Trop.
Parce que la vie, aussi de réaliser que la vie est dure. Tu sais, la Bible dit, l'ennemi vient, le diable vient pour tuer, égorger, détruire. Il fait son travail. Mm. Les gens, ils sont pris dans l'anxiété, les défis familiaux avec les enfants. C'est juste au Québec, les statistiques disent qu'on a un peu baissé, mais on a le plus haut taux de suicide chez les jeunes.
C'est une horreur.
Et pourtant, le Québec, tu sais, c'est un pays d'accueil où c'est fait bon vivre. Donc, ce mal-être-là, il faut être conscient que les gens, on pense que tout va bien dans leur vie. Mm. Mais en fait, ayons la plupart, si t'as pas Jésus aujourd'hui, c'est sûr que t'as un mal-être.
C'est certain, c'est certain. Et donc c'est ça, c'est du quotidien, c'est essayer tous les jours. Des fois, c'est même sans forcément crier le nom de Jésus, mais en étant. Ma fille, elle a un beau témoignage, elle a 18 ans, ma fille Noémie, ma fille aînée. Et quand elle est arrivée au Québec, en plus, elle est très introvertie, ma fille. Donc c'est pas quelqu'un qui va aller dans les rues, qui va évangéliser. Pour elle, c'est difficile pour elle de faire ça. Ça sort trop de son caractère et de sa zone de confort. Mais elle aime Jésus, elle a Jésus. Donc, quand on arrive au Québec, elle devait se faire des amis. Elle arrive dans une nouvelle école secondaire, etc. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est que dès le départ, quand même, les personnes qui sont venues vers elle, parce qu'elle a du mal à aller vers les gens, mais ceux qui sont venus vers elle, elle a été authentique. Elle a parlé d'elle et elle a dit qu'elle était chrétienne. Donc ça, c'était dès le départ, ils le savaient.
Déjà, elle n'a pas eu honte.
Oui, déjà ça, tu vois. Donc je sais qui je suis. Ça fait partie de qui je suis. Tu vois, tu veux apprendre à me connaître. Ça, c'est ce que je suis. Donc ça, c'est vraiment important de le dire dès le départ. Mais en fin de compte, on se rend pas compte que juste cette information, ça reste dans quelque part dans un coin de la tête de tous ces jeunes. Et ce qui se passe, c'est que elle s'est rendue compte au fur et à mesure des mois que c'était toujours vers elle qu'ils venaient quand ils avaient des défis. Des, comme tu disais, de l'anxiété, des problèmes familiaux, des troubles au niveau alimentaire, des problèmes vraiment, plein de choses que les jeunes peuvent vivre vraiment. Et donc, à chaque fois, c'était Noémie, qu'est-ce que toi tu en penses? Comment est-ce que je, est-ce que tu, et un jour, c'est, est-ce que tu pourrais prier pour ce sujet? Ça commence par qu'est-ce que tu en penses comme une conseillère? Parce qu'il voit la sagesse en toi. Et puis, c'est, est-ce que tu pourrais prier? Et au final, c'est, vous savez, c'est pas le premier jour qu'elle les invite au groupe de jeunes. Et moi, je suis, vous voyez comment je suis speed à fond. Donc, pour moi, il fallait qu'elle les invite le lendemain de leur rencontre. Mais non, elle savait, elle disait, maman, je t'assure qu'au bon moment, Dieu créera la bonne atmosphère pour que je les invite. Aujourd'hui, je les connais à peine, je me sens pas prête à les inviter. Il faut se donner de la grâce et se dire, il y a une raison pour laquelle c'est pas aujourd'hui. Mais au bon moment, le cœur aura été travaillé, la terre sera bonne, et elle sera prête à avoir une bonne semence. Et à un moment donné, je pense que ça faisait un an et demi qu'on était, un an peut-être qu'on était là, elle les a invités. Et en fait, on les a tous baptisés, ces jeunes. Vous voyez, c'était pas chrétien. Issus de familles compliquées, vivaient tous des choses compliquées. Leurs parents ne venaient pas à l'église. Il y en avait même une petite qui disait pas vraiment la vérité à ses parents d'où elle allait les vendredis. En fait, elle rentrait avec le bus scolaire avec Noémie jusqu'à chez nous et elle dormait chez nous le week-end pour pouvoir aller le vendredi à la jeunesse parce que c'est des parents qui étaient anti-chrétiens, là, tu vois. Mais ça a commencé par une jeune fille qui s'est ouverte tout de suite à qui elle est, tout en étant, vous voyez, elle est introvertie. On pourrait dire, là, comment ça, elle est évangéliste et introvertie. Mais c'est possible, en fait. Il faut juste être, je vous le dis mille fois, mais il faut être soi-même.
Ça fait penser un peu à ce que disait
Steve
dans la première émission. Et c'est beau parce qu'en fait, on voit deux façons de faire, mais qui finalement se retrouvent ensemble. C'est que Steve lui parlait beaucoup de fait de bâtir des relations pour pouvoir ensuite parler de sa foi. Puis c'est comme ça qu'elle a fait ta fille.
Exact.
Le lien de confiance. Puis après, elle a montré l'exemple, elle a pu inviter. Et en même temps, des fois, de l'afficher tout de suite, puis de dire, on est chrétien, ou de pas hésiter à aller foncer, j'allais dire foncer dans le tas, mais tu sais, c'est un peu ça, d'aller voir, puis d'aller voir les gens, et juste de leur dire, des fois, Jésus t'aime, puis ça ouvre aussi la porte.
Exact. Mais moi, ça me fait réfléchir beaucoup sur souvent, c'est, on veut les inviter, d'ailleurs, je rebondis, on veut les inviter à l'église, mais en fait, on est messager. Le plus, c'est pas l'église qui
sont. Exact.
Tu sais, des fois, parce qu'on essaie juste la façon de les emmener à l'église, mais on devrait les emmener à Jésus, le salut. Après ça, mais je sais pas, oh, viens à mon église, viens au concert de Noël. Mais est-ce que je me suis arrêtée pour y parler de Jésus, puis que Jésus pouvait sauver sa vie?
Exact.
Et toi, une des clés pour moi aussi, c'est de dire, je vais prier pour toi. Les gens, quand t'écris, après ça, tu dis, Puis un de mes emojis préférés, c'est, mettons, ils vivent quelque chose, c'est toujours, tu sais, les, mais oui, mais ils savent.
Ça veut dire sans le dire.
Souvent, mais quand t'es chrétienne, ils savent que si tu mets ça, c'est parce que tu vas prier, c'est pas juste comme ça, tu vois. Et sur, bien sûr, dans mon cas, moi, c'est sur les réseaux sociaux, ce que nous partageons sur notre compte Instagram ou Facebook, c'est dans ce sens que moi, il n'y a pas trop de secrets. Tout ce qui est sur, c'est une réunion de ici, une l'église. Donc, au gym, entre autres, parce que c'est à peu près là que je vois juste des gens qui connaissent pas Jésus, ben, sans leur témoigner, ils regardent, veut pas, les gens, ils regardent, qu'est-ce qu'on met, qui on est, ils vont voir.
Bien sûr.
Ben, sur tes réseaux, ben, ça, être authentique, c'est être là aussi, partager ta foi, tu sais.
Réseau, et puis parfois même tout simplement dire ce qu'on fait dans la vie.
Ben oui, ben ça c'est sûr.
Quand j'étais infirmière, c'était facile, je suis infirmière. Ben mais là, les dernières années, de dire, ben je chante. Vous faites quoi comme chant? Ben je chante dans des églises. Là d'un coup, après ils disent, ok, ta chaîne YouTube, ton compte Instagram, le nom de Jésus.
Oui, exact. Tu fais quoi? Moi des fois, c'est des conférences. Ah, sur quoi? Ben pasteur, tu sais. Ah ouais.
Le réflexe, c'est d'être gêné. de, ouais. Que les gens vont trouver ça. Alors qu'en fait, bah, j'aime ton, ouais. ton côté authentique, puis ton audace de dire, bah, c'est en fait, qu'on non, est. J'ai pas à être gênée, c'est, mm. Je chante pour Jésus, machin, machin, puis ça peut, ça a aussi une ouverture.
Ouais. C'est très, nous.
Mais c'est pas.
Non, c'est pas toujours. Et tu vois, quelquefois, en plus, le fait de nous-mêmes d'être gênés, parce qu'on a peur de gêner, ben on gêne.
Oui, absolument.
Non, mais parce que la personne
a quelque chose là, en fait, on a peur d'être
gêné. Non, mais en fait, moi, j'avais des questions, mais t'as l'impression que tu voulais pas trop en parler et tout. Alors que toi, c'est parce que t'avais peur que l'autre se sente offusqué ou
ne
quoi
comprenne
que ce soit.
Pas.
Et puis, bah, écoute, quand tu le dis et que t'as été ouvert, bah, ouais, je suis pasteur. Tu sais, je suis pasteur et tout ça, je suis là, 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 là. Ah, bah, la personne va sentir, bah, je peux te poser peut-être une question. Bah, justement.
Exactement.
Bah,
oui, exactement.
Mais quand, toi, en fait, c'est de la gêne, mais que tu l'exprimes de différentes façons, genre, bon, bah, il est pas intéressé de me parler, peut-être que, tu vois, ça l'intéresse pas, peut-être qu'il parle pas de ça avec des inconnus. Et, c'est d'être fier, en fait, aussi, de qui on est, et de fier qu'on porte Jésus-Christ.
Exactement.
Parce que, tu vois, même les gens, ils ont pas peur de revendiquer pas mal de choses dans leur vie aujourd'hui. Donc en fait, on n'a aucune honte à être qui on est. Et je pense que ça peut aussi commencer par là, d'aimer l'autre, absolument. Mais aussi de nous aimer assez pour
être fier de nous,
de nous aimer assez pour oser dire bah oui, moi je suis comme ta fille, bah, je suis chrétienne. Tu sais, je suis pas obligée d'attendre un an pour oser dire que je suis chrétienne, parce que tu dis ça prend tellement de partie dans ma vie, c'est la base de ma vie, c'est la fondation de ma vie, je vis pour ça, et puis c'est comme bah je vais attendre un an pour pouvoir te le dire au cas où. Bah c'est sûr que là tu te dis bah pourquoi en fait, c'est quoi la vraie racine, est-ce que c'est parce que j'ai honte, est-ce que c'est parce que je suis gênée, est-ce que c'est parce que je veux pas déranger.
Des fois c'est qu'on a des mauvaises expériences.
Ouais. Mais bon, les mauvaises expériences,
il y en a des bonnes aussi. Hein.
Et même, je veux dire, dans le cadre du ministère, il y a des mauvaises expériences.
Ben c'est ça.
Il y a des mauvais messages, il y a des mauvaises conférences.
Mais ce que je veux dire, c'est que les mauvaises expériences, des fois, on capitalise là-dessus.
C'est vrai,
c'est
traumatisant.
Non, mais c'est l'effet, mais
c'est tellement
vrai. C'était dans ma jeunesse. Mais c'est
merci. En fait, c'est vrai, parce que les mauvaises expériences, on en fait presque une doctrine.
Oui, c'est comme c'est l'exception, mais ça
passe une fois.
Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça.
Mais je comprends qu'on
m'arrêter, la dernière fois que c'est arrivé,
c'est tellement vrai.
Ça fait ça, donc c'est vrai
tellement
qu'il
vrai.
Faut ça.
Et il faut sortir justement de ça, de se dire, comme ça s'est passé, même si ça s'est passé même plusieurs fois, c'est un peu comme Jésus va dire aux disciples, mais cette fois-ci, allez un peu plus
loin. Ouais, va vers nos profondes,
refais-le. Alors qu'ils l'ont déjà fait toute la nuit, ça n'a pas marché le projet, tu vois, refais-le
puis
encore.
Puis aussi, des fois, nous, on est timides, puis des fois, tu parles avec des gens, mais eux, ils sont pas timides, ils vont te raconter des croyances de chacun, tu dis, mais ils s'assument comme ça sur quelque chose qui est, c'est bien plus controversé que,
réflexe,
et nous, on est comme, ben, voyons, c'est moins bizarre que beaucoup de les gens pensent.
Mais moi, ça m'encourage.
Oui.
Le courage des autres m'encourage. Bah, parce que quelquefois, tu es avec des personnes qui te racontent des choses très privées de leur vie. Et tu te dis, quelle vulnérabilité, authenticité, cette recherche de vérité, cette recherche de solutions, etc. Tu te dis, franchement, c'est waouh. Et l'autre chose, c'est toute cette quête de spiritualité où les gens te racontent des choses qu'ils ont faites, des retraites. Tu te dis, moi, je me sentais bizarre à dire j'allais à l'église le dimanche, mais franchement, ça va, quoi.
Ouais.
Parce que là, c'est du lourd.
C'est vrai.
Et en fait, c'est notre propre peur nous limite, et notre propre peur va au-delà de la gêne ou de la peur des autres qui, c'est super, c'est hyper intéressant. Mm. Et toi-même, quelquefois, t'es surpris. Ah, ça t'intéresse.
Comme... C'est ça.
C'est ça. Bon, c'est bon, tu m'autorises. Mais c'est pour ça que, tu vois, j'aime beaucoup la façon dont toi, tu le fais, Emma. C'est pas que tu vas être imposante, mais comme tu le dis, ça fait partie de toi. Et tout comme ton mari fait partie de ta vie, tes enfants font partie de ta vie, c'est pas que t'imposes toute ta famille, mais c'est que tu la caches pas non plus.
Exactement.
Et ça fait partie de moi. Je peux pas me présenter, je peux pas même aller plus loin dans la conversation sans le dire. Tu vois, pourquoi est-ce que je le dirais pas?
C'est
pas quelque chose à cacher. Et c'est tellement, je trouve, naturel chez toi de le faire sans que tu t'en rendes compte.
Ouais,
ça amène un climat tout de suite avec les autres personnes de confiance et comme de normalité.
Oui.
Dans le
oui.
sens, c'est qui je suis. Et tu le dis avec tellement de naturel et de science que ça crée pas de malaise, en fait.
Mais ça, c'est super important ce que tu dis, c'est que
tu me connais, tu sais bien que je suis, on est vraiment fous, tu vois. Ouais. Et tu peux être, c'est bizarre, mais t'arrives à être fou. On l'est complètement pour Dieu. Il nous demanderait, tout ce qu'il nous demande, on va essayer, en tout cas, comme on peut, de le faire, même si ça semble complètement zinzin. Mais pourtant, je pense que quand on va parler avec des gens de Jésus, quand on va être dans, moi, avec mes patients, l'IFA, avec ses clients en tant qu'avocat, je peux t'assurer qu'il y a quand même quelque chose de normal qui s'installe dans l'atmosphère. Une conversation où pourtant on parle de Jésus, il n'y a rien de bizarre. Parce que on est fou, mais en même temps, dans ce moment-là, sage. Exactement. Parce que la personne, elle n'a pas besoin ici que je sois en train de crier, que je fasse ou de lui imposer la parole, ou de lui imposer les mains, ou de parler en langue. Comprendre. La personne, elle a besoin que je sois vrai. Et ce que je me dis souvent, c'est au final, je risque quoi?
Ouais.
Qu'est-ce que j'ai à risquer alors qu'il y a tout à gagner?
Mais aussi avec l'authenticité de dire tout de suite qu'on est chrétien, ben, ce qui me monte à l'esprit, c'est que, ben, eux, ils ont le regard sur nous aussi. Mmh. Ça vous est arrivé, bon, peut-être pas vous, mais d'être dans des endroits où tu te dis la personne est tout fière, elle expose qu'elle est chrétienne, mais tu veux pas son, tu veux pas lui ressembler.
Exact.
Tu sais, il y a des gens.
Non, c'est vrai.
Mais ils sont un peu de sagesse, un peu de façon de te comporter. Pourquoi? Ils sont ouverts parce que qui tu es, ton témoignage de vie, ça donne soif. Mais il y a des fois, il y en a qui s'exposent tellement, je suis chrétien, mais ce qu'ils font, c'est limite, c'est pas inspirant.
Tu vois, avoir un témoignage à la hauteur.
Ben, sans se mettre d'une, comme on disait, pas une pression, comme, tu sais, Dieu nous demande pas d'être parfait, mais il y a quand même un style de vie, d'amour, de fruit de l'esprit. Tu sais, si t'es la personne qui pète, un câble à la salle à café à toute, ben, tu dis que t'es Jésus.
C'est te souvenir, tu sais, je témoigne. Ben oui, je suis le témoignage.
Voilà, et les portes risquent de se fermer ou les conversations risquent de se fermer à cause justement de la manière dont tu t'exprimes ou même je veux dire ton témoignage, ce que les gens savent vraiment de toi. Plusieurs fois les clients de l'IFA ont dit je vous avoue, je vous ai tapé sur Google, j'ai vérifié qui vous étiez, puis j'ai vu que vous étiez pasteur et ça m'a rassuré.
Oui,
tu vois, c'est pas genre
donc ça a pas fermé,
tu vois, ça n'a pas
fait un témoignage,
ça n'a pas fait un mauvais témoignage parce qu'ils vont regarder sur Google, ils vont dire il a fait ça, puis on laisse des traces dans ce qu'on fait sur cette terre, et Internet n'oublie jamais rien. Et donc, il y a des choses que tu fais, que tu es, puis finalement, c'est un
justement,
témoignage.
Justement, je vais te poser la question. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix de pouvoir partager ta foi dans ton milieu professionnel? Parce que certains vont dire, mon milieu professionnel, je veux rester professionnel, et du coup, je vais pas partager ma foi. Et puis, je veux pas rentrer dans un débat de qui a tort, qui a raison.
Absolument.
Mais pourquoi est-ce que toi, tu as fait ce choix?
Oui. En fait, je pense que c'est la manière dont Dieu m'a faite moi. Je sais vraiment très difficilement compartimenter.
Ok. Tu sais pas le faire autrement.
Exactement. Je pense pas que je peux. Par exemple, au travail, je peux pas dire, je parlerai jamais de ma famille ou de mes enfants. Je vais toujours tout le monde. Celui qui sait pas que j'ai 5 enfants là, c'est qu'il m'a jamais rencontré. C'est pas possible. Donc c'est sûr. Donc forcément, je pense que ça fait partie. Vu que Jésus, c'est comme je vous l'ai dit au départ, c'est tellement. Il a trop fait pour moi, là. Je suis un peu comme cette femme samaritaine. Je me dis, je vais aller dans ce village, forcément. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Il m'a dit toute ma vie, le gars. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, je vois pas comment je pourrais faire autrement. Et je pense que ça fait pas de, et je comprends très bien cette conversation de dire, il faut être pro. Et je crois pas que ça fait de nous des mauvais professionnels. Mmh. D'être vraiment authentique, d'être vrai. Et je pense qu'il y a, comme on l'a dit, c'est avec sagesse. C'est pas à tout moment que je parle de Jésus avec mes patients. J'écoute beaucoup aussi ce qu'ils me disent. Je suis pas tout le temps en train de partager l'évangile. Mais il y a une manière, je vous dis, il y a de la louange que je mets, il y a des questions, il y a la manière dont je vais répondre à leurs questions. Et c'est ça. Donc, c'est qui on est va ouvrir réellement les portes et les conversations.
Et quelqu'un t'a déjà dit, non, moi, je veux pas entendre parler de ta foi. Ça, je préfère que tu le gardes pour toi.
Oui, on me l'a déjà dit. Je veux pas forcer parce que c'est pas mon rôle. Moi j'ai semé, quelqu'un d'autre peut-être un jour va récolter. On ne sait pas. Et plusieurs fois j'ai eu des témoignages de personnes que quand on leur a parlé de l'évangile il y a des années, ils ont rien voulu savoir et puis t'es chrétien toi maintenant. d'accord. Tu vois. Ou il y a trop de témoignages. Pour chaque anniversaire de mes enfants, on invite leurs amis. Et puis mon fils, quand il était petit, il avait un meilleur ami. Et c'était pas du tout des chrétiens, sa famille. Mais nous, chaque fois qu'il y a un anniversaire, on chante Sois fidèle à Jésus. Je sais pas si vous faites ça. Oui. Jésus est avec toi, bien fort. Qu'on soit au resto, qu'on soit n'importe où. Ah oui, au McDo, sois fidèle à Jésus. Allez hop. Et le petit, c'était quelqu'un.
Vous êtes ce genre de famille.
Si vous entendez ça, c'est nous. Si au McDo, t'entends sois fidèle à Jésus, c'est nous. et c'est ça. Et ce petit-là, c'était un ami proche, donc il était tout le temps à tous les anniversaires. Il a été dans la maison tout le temps. Nous on fait le culte familial, il était là. On va pas faire semblant. Oui. Il est là. Et s'il veut prier, il peut. Mais s'il veut pas, c'est pas grave. Et on a continué notre vie, on a déménagé. On est parti ailleurs. Ses parents, je vous répète, ils sont pas du tout chrétiens, là. C'est pas une famille chrétienne du tout. Et récemment, parce que c'est le meilleur ami de mon fils qui a aujourd'hui 16 ans, ils sont pas vus depuis 5-6 ans. Puis quand mon fils est parti en Belgique il y a quelques mois, il m'a dit, maman, Peter est devenu chrétien. Je dis, comment ça, Peter est chrétien? Donc, je ne dis pas que c'est nous. Je dis que c'est une semence. Ouais. Mm-hmm. C'est ça que je dis. Il y a certainement quelqu'un qui l'a évangélisé, et puis il a accepté Jésus un jour. Mais il y a des choses, des soins fidèles à Jésus qu'il a entendu quand il avait 4-5 ans. Je dis que c'est une semence, tu vois. Donc même si peut-être qu'il y a des gens qui aujourd'hui vont te dire non, je veux rien savoir, toi t'as commencé, t'as semé quelque chose, et peut-être que c'est dans 10 ans que cette terre sera prête et va se souvenir, ah mais quelqu'un m'avait déjà dit un jour, quelqu'un m'avait déjà parlé de Jésus, tu vois. Donc ouais, c'est ça.
Et quand vous aviez fait l'émission sur TF1, ouais, famille XXL, ouais, comment est-ce que c'était pour vous un défi de pouvoir parler de votre foi? Bon, vous connaissant, je pense pas.
Mais en fait, c'est ça qui est spécial.
C'est une opportunité.
Mais non, mais
c'est un défi pour la chaîne.
C'est que, en fait, TF1, quand ils nous ont proposé l'émission, dès le départ, c'était genre, c'est sur notre Insta, on est chrétien, on est pasteur. Donc c'était, il y avait zéro. En fait, c'était même ils ont décidé de faire de ça genre notre identité, ce qui est spécial parce que c'est TF1, on aurait pu dire c'est laïque, mais ils ont décidé de dire bah peu importe, eux c'est la famille du pasteur. Et on rigolait avec ça, même avec les journalistes. Il y avait une série télé avant qui s'appelait Seven Heaven, je sais pas si vous connaissez, mais ils nous appelaient comme ça, la famille du pasteur Seven. Donc c'est drôle parce qu'en fait au final ça n'a jamais été un frein. Ils sont venus avec nous dans les évangélisations de rue, ils sont venus avec nous, ils ont filmé dans l'église TF1 là, tu vois. Donc non, ça n'a mais je pense que on a encore une fois des a priori, on pense plein de choses, c'est notre imaginaire, et au final
les retours par rapport à ça,
ça a été le, pour moi, et dans mon existence, ça a été un des moments de ma vie les plus impactants.
Ah ouais.
Parce qu'on recevait tous les jours, sans exagérer, des centaines de messages sur Instagram, des centaines. Des gens que je pourrais vous dire, des gens, des acteurs de Plus belle la vie, là, qui nous écrivaient pour nous dire « Je vous ai vu à la télévision. Et ce que j'ai vu, c'est l'amour avec une majuscule. Et là, qu'est-ce que je lui dis? Ça tombe bien, c'est une personne, l'amour. Ça tombe bien que tu dis avec une majuscule, parce que c'est une personne, c'est Jésus. » Tu vois, et on ouvre la conversation comme ça. Des gens qui disent, on regarde votre famille.
Toi, tu ouvres la conversation cash, quand même.
Mais il a mis la majuscule, c'est pas de ma faute. Il a dit avec.
Tu comprends quoi? Elle saisit les personnes.
Elle a tellement l'habitude que c'est parce que moi, il aurait dit amen.
Avec un A majuscule.
Majuscule, merci.
C'est un nom propre. Ouais, il a décidé de mettre l'amour comme un nom propre. Et donc, ça tombe bien, c'est quelqu'un. C'est Jésus que vous avez.
C'est évident. Je dis oui, c'est vrai que c'est comme ça qu'on devrait répondre. Mais pourtant, non.
Ouais, mais si.
C'est pas un réflexe encore, disons. Mais il faudrait que ça le devienne. Ouais,
mais
que ça soit,
c'est des réflexes, on en a tellement. Amen, amen. Là, j'étais à l'épicerie, j'étais en train de faire les courses. J'arrive pour payer, elle me donne mon change, la fille, je lui dis merci, j'ai dit amen.
Oh, mais non!
Mangez-les, j'avais l'air d'une bizarroïde. Elle m'a dit, elle m'a regardé. Pardon? Excusez-moi.
Soyez bénis.
C'était tellement dingue, t'aurais pu dire, j'ai tellement l'habitude de dire amen, vous savez. Je suis chrétienne, là, là, là.
Réflexe, Stéphanie.
J'étais tellement dans mon message. Amen.
Wow. Mais ça montre que c'est vraiment qui tu es. T'es vraiment authentique.
Oui, un peu bizarre peut-être qu'elle m'a trouvé.
Mais authentique vraiment. Ouais.
Ah ouais. Est-ce que t'aurais un dernier conseil à donner à quelqu'un qui dit moi je sais pas comment parler de Jésus et tout ça, après tout ce que t'as dit, j'ai quand même un petit truc, ça me gêne. Est-ce que ça se fait encore dans notre société d'aujourd'hui? Tu vois, faut se respecter les uns les autres.
Je vais rapidement faire un petit témoignage si on a le temps, parce que je crois que le petit mot que j'aimerais dire à la personne, c'est ose. Tu vois, faut oser. Il y a quelques années, on est rentré dans une université parce qu'on voulait faire un ministère étudiant, et tout le monde nous avait dit c'est une université laïque, il y a pas d'espoir, ils vont pas vous accepter, tu vois. Et on a commencé à dire mais on va oser, parce que oui, il faut respecter, il y a des musulmans, il y a à la fois de plein de gens, mais nous on est chrétiens et on va essayer. Et en fait, l'université nous a reconnus comme le premier cercle chrétien de leur université. Et jusqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a aujourd'hui 12 ans, non même plus 13 ans. Et depuis 13 ans, il y a eu 4 générations de diplômés qui vont dans ce cercle chrétien universitaire. Et ils prient encore jusqu'aujourd'hui, tous les jeudis, dans un amphithéâtre donné par l'université. Donc moi, pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il faut oser. Je pense que d'un petit acte d'audace, d'un petit acte de « je vais demander, on ne sait jamais », je vais poser la question, je vais dire Jésus, je vais dire à quelqu'un que je l'aime, même des fois ça. Des fois, je dis aux gens que je les aime, ils me regardent, mais elle m'aime, cette femme. Et je dis « mais vraiment, je t'aime beaucoup, en fait, tu vois ». Et ça va ouvrir une conversation, parce que c'est ça, Jésus, c'est l'amour, c'est être vrai, la vérité. Vraiment, ça, c'est trop important. Et c'est ça. Donc, ose, n'aie pas peur. Tu ne risques rien du tout. Rien du tout. Il y a le meilleur, là, qui est peut-être devant. Et puis, toi, t'as juste pas osé d'ouvrir la porte. Et il y a des vies entières qui peuvent être transformées.
Mais merci beaucoup, Emma. Ouais, on repart, on repart booster à saisir les perches. Et pas les éviter, mais les saisir, les prendre à pleine main, à être intentionnel. Et puis, aussi, bah, peut-être, comme on l'a dit en début de semaine, on s'exerce. Et puis, tu l'as dit, à faire preuve de grâce aussi envers nous. Ouais. Peut-être que ce sera pas parfait la première fois ni la deuxième fois. Et d'être authentique, d'oser être pleinement qui on est, d'aimer les autres, mais aussi de nous aimer pour pouvoir oser dire, bah voilà qui je suis, voilà ce en quoi je crois, sans avoir honte. Et plus honte et être plus gêné que la personne en face de nous, en fait, quelquefois. Et pensons aussi, bah il y a des Roméo. Il y a encore, il y en a beaucoup, des Roméo. Et ces personnes-là sont pas là par hasard autour de nous. Et c'est une question de vie ou de mort. Littéralement, quelquefois on le dit, c'est comme pour faire mousser un peu le truc, mais
c'est vrai,
c'est une vraie histoire.
Oui, c'est vrai.
Et on se réjouit que Roméo soit vivant aujourd'hui,
amen,
et qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait fait ce choix grâce à cette rencontre qui a changé sa vie, parce que une femme a osé.
Exactement.
Oui, merci.
Exactement.
Emma, merci beaucoup d'être venue nous encourager. Alors, je crois que ça vous a boosté comme nous aussi, ça nous a boosté. Donc n'hésitez pas, osons parler, osons témoigner, osons saisir les perches avec audace, mais aussi avec sagesse. Et je crois que le fruit qu'on va porter va aussi nous réjouir et nous encourager. N'hésitez pas à envoyer vos témoignages. Et puis, si vous avez témoigné après cette émission, revenez sur l'émission, écrivez un témoignage dans les commentaires. Comme ça, ça va tous nous booster ensemble. Donc, merci beaucoup, Emma. Et puis, je vous dis bye bye. On se voit vendredi.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.